Bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous présenter là la synthèse de la recherche Engagir sur cette question des formes d'engagement et de politisation. Alors vous allez voir, on a fait un effort par rapport à hier, sauf sur la première slide, mais on a essayé de mettre en haut du PowerPoint les éléments. Alors c'est une question centrale dans le projet Engagir, cette question de l'engagement et de la politisation, pour les raisons qu'a rappelé Anne Bizet, c'est que le projet fédéral, en cherchant à renforcer le pouvoir d'agir des habitants, affirme une volonté explicite de reconquérir un rôle politique de transformation sociale dans les centres sociaux. Et donc c'est ça qu'on a voulu, c'est notre point de départ. Sachant que du coup nos questions de recherche étaient de saisir dans quelle mesure les centres sociaux peuvent être des lieux de politisation des individus qui s'y engagent, notamment ceux issus des classes populaires qui sont le plus souvent pensés sous l'angle du désengagement. Hein, que ce soit dans l'espace public ou dans même la littérature en sciences politiques, on les pense souvent sous l'angle de l'abstention, du vote protestataire, alors qu'il nous semblait intéressant, en menant l'enquête dans des lieux qui étaient jusque-là peu investis par les chercheurs, de montrer des formes d'engagement et de mobilisation de proximité habituellement peu repérées. Et il nous semblait en fait d'autant plus intéressant d'analyser les centres sociaux sous cet angle des processus d'engagement et de politisation que ce sont des lieux qui n'affichent pas d'emblée dans l'ordinaire de leur pratique cet objectif de transformation sociale. Je veux dire, c'est présent dans le projet fédéral, mais dans les activités qui sont présentées aux personnes qui viennent dans un centre social, les participants qui viennent à ces activités ne font pas forcément être motivés a priori par un objectif, une volonté d'engagement ou un projet politique. Alors, c'est important de préciser qu'on est parti d'une définition large du politique. On a commencé à en parler hier. Il y a plusieurs manières de définir la politique. Souvent, on va la réduire à la politique institutionnelle et électorale. Hein, ce qu'on dit communément la politique politicienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que la politique souvent va être rejetée dans les centres sociaux. Et on a souvent entendu dire les acteurs des centres sociaux revendiquaient une neutralité politique ou un apolitisme parce que souvent la politique en fait est associée aux élections, aux partis, aux élus, et donc on veut se mettre à distance de cette politique-là. Alors nous, il nous semble qu'il y a un réel enjeu en fait à ne pas réduire justement la politique à ça, à ne pas réduire la politique à un espace spécialisé pour la conquête et l'exercice du pouvoir, mais de l'entendre dans un sens plus large. Hein, la police, en grec, c'est la vie de la cité. Donc on peut l'entendre, pour entendre le politique comme les conditions du vivre ensemble et comme la résolution des conflits qui sont inhérents à la vie en société. Et donc si, c'est important d'avoir en tête cette conception de la politique sur laquelle on est parti. Et dans cette perspective, on peut définir la politisation comme le processus qui permet de repérer ces conflits qui traversent la société, qui permettent de prendre position, de donner une portée plus générale à son action, en considérant, par exemple, en se rendant compte que les problèmes qu'on rencontre individuellement, ils sont partagés par d'autres, et donc ils peuvent faire l'objet d'une action collective et d'une action publique. Alors, notre principale surprise, comme chercheur, quand on est arrivé sur le terrain, ça a été de constater en fait, que le politique ainsi défini, il était relativement absent, ou voire des fois ouvertement évité dans les centres sociaux, notamment dans les conseils d'administration, qui sont pourtant censés porter le projet politique de l'association pour les centres sociaux qui sont en statut associatif, qui sont la majorité des centres sociaux. On a été aussi surprise par le fait que les références à l'actualité politique soient quasiment inexistantes dans les centres sociaux où on a mené l'enquête, en tout cas dans la région, alors que la recherche s'est menée à un moment d'intense conflictualité sociale, avec notamment le mouvement des Gilets jaunes, et les ateliers qu'on a eus hier autour la réforme des retraites vont complètement dans ce sens. Les discussions qu'on a eues, on a parlé de ce mouvement-là, mais aussi d'autres mouvements comme celui des Gilets jaunes, où finalement, on en a assez peu parlé dans les centres sociaux, à part quelques exceptions. Donc en fait, on a essayé de comprendre les raisons de cet évitement du politique dans les centres sociaux en développant en fait deux principales perspectives d'analyse. Donc la première que je vais vous présenter, en fait, elle vise à repérer ces formes d'évitement, mais aussi d'expression du politique dans les centres sociaux. Et on verra qu'il y a des logiques qui sont qu'on retrouve comme dans d'autres associations. Ce que présentera Catherine ensuite, c'est que en s'intéressant au contexte spécifique des centres sociaux, on peut repérer en fait la prégnance de certaines représentations du politique en leur sein, en fait, qui sont des obstacles au ressort de politisation. On définira ces termes. Et puis, un dernier élément que présentera alors, c'est le fait que si on a surtout repéré, vous allez voir, des freins à l'expression du politique dans les centres sociaux, on a aussi pu voir des points d'appui à la politisation, et donc on terminera là-dessus. Alors, juste un mot pour vous dire sur quoi s'appuie la présentation là qu'on va vous proposer. Les analyses, elles s'appuient surtout sur des observations qu'on a menées au sein de plusieurs centres sociaux de la région et de deux épiceries solidaires. On s'appuie aussi sur les échanges qu'on a pu avoir au sein de journées de coproduction régionale. Et sachant qu'une des limites de cette synthèse globale, comme d'autres, on en a parlé hier, c'est de gommer les spécificités locales. Et donc, il y aura des nuances à apporter dans ce qu'on va vous présenter en fonction de chaque terrain. Alors, pour vous présenter la première perspective sur l'évitement du politique, en fait, c'est une perspective qui s'inscrit dans la continuité de travaux sociologiques sur l'engagement associatif, qui nous aide à penser une conception élargie du politique. Donc, je vais vous présenter ces références et puis pour voir comment est-ce qu'on peut avancer un peu sur ces questions. On s'appuie notamment sur les travaux d'une sociologue américaine, Nina Eliasoff, qui a travaillé sur des associations locales aux États-Unis, et elle propose un concept qui est celui de conversation animée par l'esprit public. Et la conversation animée par l'esprit public, en fait, serait de voir si les personnes, je la cite, tirent les implications publiques de leur sujet de discussion. C'est-à-dire que si elles imaginent que ce qu'elles disent importe à d'autres qu'elles-mêmes, si elles pensent que toute la société et en toile de fond de leur discussion. Donc elle s'intéresse cette manière en fait au processus qui permet l'élargissement du champ des préoccupations. C'est une approche qui s'inspire des travaux d'une autre chercheure américaine, Anna Pitkin, pour qui la discussion elle devient animée par l'esprit public quand les citoyens s'expriment en termes de justice. C'est-à-dire quand ils passent d'une logique du « je veux » à un discours qui est construit davantage sur le mode de « nous avons droit à ». Et donc, on considère que les discussions prennent un caractère politique quand elles sont orientées vers le bien commun, vers la dénonciation d'injustice ou la revendication de droit. À partir de, dans cette perspective, on peut aller un peu plus loin dans la définition de la politisation que je vous proposais au départ, en s'appuyant là sur les travaux d'une sociologue française qui est Camille Amidi, qui a aussi travaillé sur des associations locales en France, et qui propose de définir en fait la politisation à partir de deux éléments. Le premier, c'est un processus de montée en généralité, c'est-à-dire un processus de désingularisation de son discours, en se référant, en fait, quand on se réfère à des principes généraux qui régissent la société, comme le principe de justice. Et le deuxième, c'est la reconnaissance de la dimension conflictuelle des positions qui sont adoptées, au sens où on reconnaît l'existence de clivages sur la question qui est en débat. Et donc, en fait, ce qu'on observait, c'est deux sociologues, Nina Eliasoff et Camille Amidi, dans les associations sur lesquelles elles ont travaillé, c'est le fait qu'il y a une évaporation du politique en leur sein et des effets de politisation qui sont limités. Et donc, nous, on a fait les mêmes observations dans les centres sociaux, alors que ce sont des associations, pour la plupart, qui vont revendiquer un projet politique de manière beaucoup plus explicite. Donc on a essayé de comprendre un peu ce paradoxe en testant des hypothèses, trois hypothèses qui sont issues des travaux de sciences sociales. Alors la première hypothèse, elle concerne le degré de publicité des échanges. Ça, c'est une hypothèse que développe Lila Eliasoff et qui a en gros le fait que le politique s'exprimerait plus facilement dans des discussions informelles que dans des grands groupes, et qu'on observerait en fait une évaporation du politique à partir du moment où le groupe s'étend et que la situation devient publique. Et donc, c'est ce qu'on a observé dans les centres sociaux, c'est que les discussions politiques, elles émergent plus facilement dans des petits groupes, dans des conversations informelles, alors qu'elles vont être davantage évitées ou détournées dans les scènes publiques. Par exemple, très concrètement, dans des espaces de sociabilité, type espace rencontre ou dans les épiceries solidaires, on s'est rendu compte que ce sont des lieux, en fait, où les participants, qui sont d'ailleurs souvent des femmes, dans des situations vulnérables, vont pouvoir parler de leurs difficultés du quotidien, qu'elles rencontrent au quotidien, concernant par exemple l'emploi, le logement, les aides sociales. Et donc, elles vont avoir des discussions sur leurs conditions de vie, surtout dans le cadre de discussions informelles qui se tiennent dans des petits groupes à l'écart de la discussion principale, alors qu'en grand groupe, les discussions se font davantage sur le mode des plaisanteries, des taquineries. Et donc, dans les discussions informelles, en fait, ces femmes, elles vont exprimer des problèmes qu'elles rencontrent, elles vont se rendre compte qu'elles les partagent au quotidien. Et donc, on a une mise en commun de problèmes individuels qui peut être un support de politisation. Parce que ça permet de désingulariser son expérience, c'est-à-dire de cesser de penser que cette expérience, elle est uniquement personnelle. Mais ce qu'on a observé, c'est que cette mise en commun de problèmes, elle s'accompagne rarement d'une recherche de solutions collectives ou de la définition d'un sujet, d'un groupe, d'un collectif, qui aurait des intérêts communs à défendre. Alors, ces échanges, parfois, ils sont orientés vers la dénonciation d'injustices. Et là, on retrouve l'une des trois composantes de la politisation que développe un autre chercheur qui est William Gamson, qui est l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire le sentiment indigné de l'existence d'une injustice. Ça, on va le retrouver dans ces discussions. Mais en fait, les deux autres éléments qui proposent pour définir la politisation sont par contre absents. Ces éléments, c'est l'agency. Donc l'agency, en fait, c'est le sentiment qu'il est possible de modifier la situation par l'action collective, et l'identité, qui est la constitution d'un « nous » face à un « eux », avec un « eux » qui est perçu comme ayant des intérêts et des valeurs qui sont différents. Donc, en fait, on a une politisation de la discussion qui reste inachevée dans ces espaces. Alors, on peut se demander pourquoi ces partages d'expériences débouche rarement sur une mobilisation collective. On peut considérer la posture des salariés qu'a évoqué Thierry sur le fait qu'on ne se saisit pas toujours de ses propos politiques, mais on peut aussi considérer les raisons des femmes qui les incitent souvent à venir dans ces espaces, qui sont plus à la recherche de liens de sociabilité légère, pour reprendre l'expression de Camille à midi, qui n'invitent pas forcément à l'expression de conflits. Alors, la deuxième hypothèse, elle porte sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité du groupe, c'est-à-dire qu'on exprimerait plus difficilement des propos conflictualisés, porteurs de politisation, dans un groupe hétérogène, parce que ça mettrait en évidence les divisions au sein de ce groupe, alors qu'on se sentirait plus à l'aise pour le faire dans un groupe vécu comme étant homogène. Ça, c'est ce que met en avant à midi, notamment dans ses travaux. Alors, il faut voir que les critères, ils restent très subjectifs hein, pour savoir si un groupe est homogène ou hétérogène. Le groupe n'est jamais tout l'un ou tout l'autre. Mais ce qu'on a pu repérer, c'est que l'entre-soi, à la suite d'autres auteurs, hein, c'est que l'entre-soi va favoriser la politisation des individus en facilitant l'expression de problèmes partagés, la dénonciation d'injustices et la constitution d'une identité commune. Donc c'est pour ça que souvent, ces problèmes ils s'expriment dans des petits groupes parce qu'ils sont davantage homogènes. Et donc à cet égard, en fait, l'objectif qui est souvent affirmé dans les centres sociaux de promouvoir la mixité sociale, bah, ça peut freiner l'expression de propos politiques. Et donc ça va engendrer en fait cet objectif plutôt un évitement du conflit, un évitement du politique pour se centrer plutôt sur des activités qui rassemblent, sur le festif ou la convivialité. Alors, donc c'est une hypothèse qui nous semble intéressante. Après, on pense qu'elle peut être un peu complexifiée parce que l'entre-soi, déjà, c'est pas forcément toujours une ressource pour la politisation. C'est-à-dire qu'elle débouche pas forcément aussi sur une mobilisation collective. Quand des personnes partagent les mêmes conditions de vie, elles éprouvent pas forcément le besoin d'en parler. Et surtout, elles viennent pas toujours, dans la majorité des cas, au centre social pour ça. Ensuite, on a aussi observé des situations à l'inverse. L'hétérogénéité du groupe peut faciliter l'expression de propos conflictualisés et la constitution d'un « nous », où finalement un groupe hétérogène, ça peut favoriser en fait aussi le processus de politisation en incitant des participants à définir une identité commune au sein du groupe. Et donc finalement, la troisième hypothèse, elle concerne la posture des salariés qui pourraient favoriser l'émergence de discussions politiques ou au contraire contribuer à les éviter. Alors, ce qu'on a plutôt observé dans les centres sociaux de la région, c'est une posture professionnelle en fait qui mène à une dépolitisation des discussions. C'est-à-dire que les salariés ont tendance à écarter ou à détourner les propos ou les enjeux politiques ou politisables quand ils s'expriment, plutôt qu'à les saisir pour susciter de la mobilisation. Alors, ils cherchent parfois à s'en saisir, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre et se sentent souvent démunis, par exemple, quand s'expriment des propos racistes. Et donc, c'est lié en partie en fait, au fait que les salariés vont se trouver souvent dans le topic de l'urgence. C'est l'expression que propose Camille à midi, c'est-à-dire qu'en voulant bien faire leur travail, ils cherchent à répondre aux problèmes évoqués en offrant une solution rapide, efficace et qui est souvent individuelle. Et donc, plutôt que chercher les causes collectives, sociales ou politiques des difficultés qui sont exprimées, ils vont concevoir une réponse qui est dépolitisée en apportant souvent une analyse psychologique du problème. Et donc, ce traitement individuel des problèmes, on peut les associer aux figures du projet de centre social qu'a défini Régis Cortezero et dont on a déjà parlé hier, c'est-à-dire le fait que les centres sociaux, en tout cas ceux qu'on a observés, s'inscrivent principalement dans la figure de la promotion du lien social et de la cohésion sociale, donc qui cherchent à promouvoir la personne, à l'aider dans la réalisation de son projet, et pas tellement dans la figure de la capacitation, qui place le centre social comme un entrepreneur de mobilisation et invite les habitants donc à se mobiliser. Après, il nous semble toutefois important de bien saisir la complexité de chaque contexte pour comprendre cette évaporation du politique qui tient pas seulement à la posture des salariés et des bénévoles, mais aussi aux contraintes dans lesquelles ils seront pris pour exercer leur métier, donc avec des éléments qu'on a déjà vus hier, que la réduction des financements, la place de la commande publique par rapport au projet, ou encore le fonctionnement par projet. Et donc, à cet égard, les rapports aux financeurs et les modèles économiques et de gouvernance des structures sont peu propices au développement du pouvoir d'agir. Donc, pour résumer sur cette première perspective, c'est une perspective en fait qui permet de repérer de nombreux obstacles à la politisation dans les centres sociaux, mais aussi des conditions d'émergence d'une parole politique en leur sein, notamment le fait de chercher à se saisir de propos politiques, comme disait Thierry, pas forcément là où on les attend, notamment dans les discussions informelles, ou encore de favoriser la constitution de groupes homogènes, refuser le fait qu'il peut y avoir des groupes d'entre-soi aussi, au-delà du principe de mixité sociale qui est souvent mis en avant.
Alors pour continuer, on a développé une autre série d'analyses pour essayer de comprendre ces obstacles à l'émergence du politique ou à la prise en charge du politique dans les centres sociaux avec lesquels on a travaillé, qui est là est une piste qui s'intéresse plus, donc comme ce qu'a présenté Héloïse s'inscrivait plus dans une toute une sociologie sur comment la question du politique est discutée, prise en charge dans des associations de manière générale. Et là, dans cette deuxième perspective, on s'est plus intéressé à essayer de comprendre ces obstacles en s'inscrivant plus nettement dans l'histoire spécifique des centres sociaux, et en prenant en compte le fait que, certes, les centres sociaux, en tant qu'associations, ont des similarités, peuvent être comparés avec d'autres associations, et en même temps, ils ont aussi une histoire spécifique, et c'est cette histoire spécifique aussi qui donne parfois, enfin qui permet de comprendre la manière dont cette question du politique est prise en charge ou pas dans les pratiques et les représentations. Donc là, c'est plutôt un angle d'analyse qui dit pas forcément des choses différentes de ce qui vient d'être dit, mais qui les aborde en prenant en compte cette histoire particulière des centres sociaux et en partant aussi de l'identification par un certain nombre de chercheurs et notamment là par Marion Carrel d'un certain nombre de ressorts de politisation. Marion Carrel propose dans un de ses travaux récents l'identification, après les travaux d'autres collègues, l'identification d'un certain nombre de ressorts de politisation, c'est-à-dire des éléments qui peuvent être des points d'appui pour que les personnes ou les pratiques se politisent. Je ne vais pas les énumérer toutes ici, mais on en avait sélectionné quelques-unes qui paraissaient particulièrement en écho à ce qui peut être observé dans les centres sociaux. Un premier ressort de politisation, c'est le fait de partager avec d'autres le trouble, de se rendre compte qu'on se questionne à plusieurs sur un même enjeu, et donc partager ce trouble avec d'autres, s'informer et rendre visible une question, une injustice qu'on éprouve par exemple, c'est un ressort de politisation et cette idée de partager le trouble, c'est l'idée que dans certaines situations il y a un public qui se forme, un groupe de personnes qui à partir de ces indignations, de ces interrogations, de ces sentiments d'injustice va mener une enquête d'une certaine manière, pour comprendre d'où vient cette injustice, est-ce qu'ils sont les seuls à la ressentir ou pas. Et donc, par ce processus-là, les indignations morales vont se transformer en jugement public sur ce qui est et sur ce qu'il convient de faire. Donc ça, c'est un premier ressort de politisation, dans l'idée que le politique peut ainsi se saisir dans le fait de partager avec d'autres, dans les petites interactions du quotidien ou dans des espaces publics ou dans des activités, toutes sortes de pratiques qu'on n'identifie pas forcément dans la vision dominante comme politique, mais qui sont des interrogations, le partage de points de vue sur une question qui nous interroge. Donc ça, c'est un premier ressort de politisation qui nous paraissait exister dans les centres sociaux. Le deuxième ressort de politisation qu'on a noté dans la suite des travaux de Marion Carrel, c'est le fait de mener des actions autonomes et communautaires. Là, c'est l'idée qu'il peut être nécessaire à certains moments et pour certaines fractions de la population, pour certaines composantes, de se constituer en groupe, ce que Nancy Fraser, une collègue des États-Unis aussi, appelle des contre-publics subalternes, qu'il peut être nécessaire de mener des actions autonomes pour élaborer une connaissance et des revendications propres. Là, peut-être que l'illustration la plus claire est renvoyée au mouvement féministe qui s'est constitué en contre-public, c'est-à-dire des femmes se sont organisées entre femmes pour prendre le temps de discuter des questions qu'elles se posaient et des injustices auxquelles elles étaient confrontées en tant que femmes et élaborer collectivement leurs propres revendications sur la base de cette communauté partagée de femmes. Donc ça, c'est aussi un autre ressort de politisation, la possibilité pour des individus de s'organiser collectivement, de construire ensemble leurs intérêts dans des espaces distincts qu'on peut relever. Et le troisième ressort de politisation, c'est l'interpellation des pouvoirs publics. Dire l'idée que interpeller les pouvoirs publics, interpeller les institutions sur des problèmes, sur des injustices vécues, sur des revendications identifiées. Cette interpellation, c'est une activité, et je voudrais insister là-dessus, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça nous paraît particulièrement important dans le contexte spécifique des centres sociaux. Cette interpellation, c'est une activité qui n'est pas seulement le produit d'une politisation antérieure, mais qui est bien une activité qui politise. Donc c'est bien l'idée que pour aller interpeller les institutions, il n'y a pas besoin d'être politisé avant. C'est parce qu'on va s'engager dans des formes d'interpellation que ça va fabriquer de la politisation. Donc là, ce qu'on va essayer de montrer rapidement sur la suite de cette partie-là, c'est qu'on va essayer de comprendre comment chacun de ces trois ressorts de politisation, dont on peut repérer des signes dans les centres sociaux de la région Centre-Val-de-Loire, de fait se heurte à un ensemble de représentations sur le politique, sur les habitants et sur le rôle du centre social qui viennent largement étouffer leur déploiement, la possibilité qu'ils soient effectivement des ressorts de politisation. Le premier obstacle dans les représentations dominantes au sein des centres sociaux à ces ressorts de politisation, c'est ce qu'on appelle, à la suite de Régis Cortesero, l'idéal normatif du parcours d'engagement. Vous n'êtes pas sans savoir, hein, on ne vous apprendra rien en la matière, que dans les centres sociaux prédomine quand même une conception spécifique du parcours d'engagement qui a été rappelée aussi par Catherine Boissier tout à l'heure. On commence par fréquenter le centre social ou une activité, on devient bénévole au sein du centre et la carrière culmine dans l'entrée au conseil d'administration. Oui, je vois que ça vous parle, cette description. L'objectif dans ce cas-là est d'accompagner au mieux ce parcours afin de permettre aux habitants et aux habitantes de franchir une à une les étapes successives de fréquenter une activité, devenir bénévole et arriver enfin au CA. Et ce qu'on a noté, c'est que cette vision du parcours d'engagement, ce modèle du parcours d'engagement qui est une sorte de marqueur identitaire très fort dans les centres sociaux, pas que dans la région centre, il a un double effet qui, dans le contexte de l'introduction ou de la mise en débat et en pratique de la notion de pouvoir d'agir, la force de ce modèle-là a un double effet. Le premier effet, c'est qu'il rend difficilement envisageable d'autres parcours possibles. On a il y a un peu des œillères et un imaginaire un peu bridé qui fait que le seul parcours d'engagement qu'on envisage, c'est celui-là et on a du mal à imaginer d'autres parcours d'engagement. C'est ce qu'on a quand même observé de manière récurrente, une limitation des imaginaires quant à la diversité des formes d'engagement ou bien l'idée que les autres formes d'engagement, elles ne pourraient exister qu'en dehors du centre social, mais pas dans le centre social. Le deuxième effet de la force de ce modèle, c'est que le développement du pouvoir d'agir, hein, il n'est conçu que dans le cadre de cette conception de l'engagement. Du coup, développer le pouvoir d'agir, c'est continuer à vouloir recruter des bénévoles pour le CA. Là aussi, on n'imagine pas d'autres manières de développer le pouvoir d'agir. Donc ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est un peu comme le guépard, tout changer pour ne rien changer. Et cette puissance du modèle, elle est d'autant plus grande que dans le même temps, il y a quand même relativement peu d'interrogations, même si ça commence à évoluer, sur le mode de fonctionnement de ces instances auxquelles on vise que les gens participent, le conseil d'administration, et on s'interroge relativement peu souvent dans les centres sociaux sur en quoi est-ce que c'est intéressant d'être dans le CA, par exemple, au regard du fonctionnement ordinaire de ces instances. Donc c'est une logique qu'on a observée qui est avant tout soucieuse de permettre une montée en compétence des habitants afin de les mettre en conformité avec le mode de fonctionnement existant. Voilà. Mais en s'interrogeant peu sur le mode de fonctionnement existant. Il nous semble qu'on retrouve ici une conception, ce qu'on peut appeler une conception capacitaire de la citoyenneté, c'est-à-dire l'idée que il faudrait détenir et acquérir un ensemble de compétences avant de pouvoir être citoyen et citoyenne, avant de pouvoir agir en tant que citoyen. Et donc, cet ensemble de compétences est souvent vu ou présenté comme un préalable à l'engagement et pas comme le résultat de l'engagement. C'est-à-dire, c'est pas l'idée qu'on acquiert des compétences en s'engageant, mais qu'il faut acquérir des compétences et éventuellement, quand on les aura acquises, on pourra s'engager. Donc ça, il nous semble que c'est quand même un modèle extrêmement puissant et fort dans les centres sociaux. Le deuxième point qui nous paraît être un obstacle à ces ressorts de politisation, c'est venir au centre social pour oublier le fracas du monde. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et ça nous semble aussi lié à ce que j'évoquais sur cette vision capacitaire de la citoyenneté. Et là, c'est l'idée qu'il faudrait être libéré des contraintes matérielles, il faudrait déjà avoir réglé les problèmes matériels avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir acquérir ou exercer du pouvoir d'agir. Et donc, selon cette logique, ce n'est pas en agissant sur les inégalités matérielles, sur les causes des inégalités matérielles qu'on pourra faire changer les choses, mais c'est en extrayant les personnes de leurs conditions sociales qu'on pourra faire quelque chose. Et là aussi, ça prend deux formes. L'idée que, on peut constater et regretter que les personnes qui viennent au centre social ne veulent pas être embêtées par des discussions politiques, parce qu'elles viendraient là pour oublier leur situation et les problèmes. Et puis l'autre idée qui est que, comme je le disais, les conditions matérielles seraient trop grandes pour que les personnes puissent y ajouter un intérêt pour des questions politiques et sociales. Et un salarié d'un centre social, par exemple, qui nous a indiqué que tant que les besoins primaires, se nourrir, se loger, etc., ne sont pas satisfaits, il est illusoire d'envisager que les personnes soient motivées pour s'engager dans du pouvoir d'agir. Et donc, ce qu'on observe quand même, c'est une réelle difficulté à prendre appui sur les situations vécues des personnes, sur les colères exprimées, les sentiments d'injustice qui existent, pour en faire des ressorts de politisation. Et avec, du coup, une posture souvent qui est quelqu'un ou plusieurs personnes viennent mentionner, comme hier dans la scénette de théâtre, un problème de transport, et on organise un débat sur les transports publics. Mais on ne s'appuie pas sur le vécu des gens pour en faire une puissance de mobilisation. Troisième obstacle, il faut que je me dépêche un peu là, c'est ça. Troisième obstacle, c'est une autre représentation puissante qu'on a repérée dans les centres sociaux, qui est la croyance forte dans le fait que les espaces ou les formes privilégiées du politique, c'est la parole et le débat. C'est un peu aussi ce que disait Thierry Fouquet tout à l'heure, une tendance à considérer que faire de la politique, c'est faire du débat. Voilà, c'est pas faire de l'action, c'est pas s'appuyer sur les problèmes vécus des gens, c'est débattre et parler. Mais cette conception ou cette croyance forte dans le fait que le politique, c'est principalement la parole et le débat, si on l'ajoute à l'embarras qu'on a déjà évoqué hier et tout à l'heure, à l'embarras face à la conflictualité sociale, les deux liés, ça fabrique plutôt des freins à la politisation que des supports à la politisation. Donc on évite, je le redis rapidement, on évite le politique parce qu'on conçoit ou on sait qu'il entraîne des conflits ou qu'il s'exprime à travers des conflits. Et on a là aussi observé très fréquemment l'évitement des questions conflictuelles, comme par exemple le fait de prendre à bras-le-corps les enjeux de discrimination, et on en parlera cet après-midi. Donc cet embarras face à l'émergence de situations conflictuelles est renforcé par la conception prédominante de la citoyenneté dans les centres sociaux, où la citoyenneté est moins conçue comme la promotion des intérêts des plus faibles qu'elle n'est définie comme une école de l'intérêt général. Et ça, cette idée que être un citoyen ou être une citoyenne, c'est être dans l'intérêt général, fait que souvent les problèmes, les questions, les sentiments d'injustice exprimés par les personnes sont rabattus, réduits à la catégorie d'intérêts particuliers, d'intérêts personnels, qui ne sont pas légitimes, qui ne peuvent pas être exprimés, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une forme de mobilisation collective parce que ce serait des intérêts particuliers des personnes. Et donc on pousse les gens à faire fi, à ne pas s'appuyer sur leurs problèmes personnels pour tout de suite monter en généralité et rentrer dans des grands débats sur la laïcité, sur tout ce qu'on peut imaginer comme grands débats de société sur des grands thèmes abordés de manière très générale, mais rarement connectés à l'expérience des gens et qui du coup déconnectent complètement l'expérience vécue des gens de des possibilités de politisation. Voilà, donc je vais m'arrêter là en mentionnant une dernière série d'obstacles que j'ai déjà évoqués, qui est la difficulté à porter un regard critique sur le mode de fonctionnement des centres sociaux, sur les formes démocratiques même des centres sociaux, notamment les rapports entre direction, conseil d'administration, équipe salariée et bénévoles. Et là, il y a effectivement des enjeux sur la manière d'adapter ces fonctionnements et ces structures à la visée du pouvoir d'agir et à la possibilité de s'approprier les dimensions politiques qui sont repérées. Je vais m'arrêter là et passer la parole à Laure pour finir.
Il marche le micro ?
Je te laisse sur mon papier.
Alors, moi, j'ai la charge de porter un regard plutôt, de conclure rapidement donc cette présentation et de porter un regard, je dirais, de plutôt du type du verre à moitié plein. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà que ça me réjouit. Donc, en effet, après ce premier constat un petit peu, je dirais peut-être décevant, des formes de politisation dans les centres sociaux, eh bien, on a repéré, après ces 2 ans d'immersion dans les terrains, on a tout de même repéré, donc, ce qu'Héloïse disait tout à l'heure, des points d'appui. Alors, je vais vous en présenter 3, de façon, dont un que je vais plus particulièrement développer, parce que les 2 autres, on les a déjà un petit peu abordés hier. Premier point d'appui, c'est-à-dire d'appui dans le sens, il y a bien de la politisation des formes d'engagement dans les centres sociaux. Premier point d'appui, c'est le changement des représentations en cours dans les centres sociaux. Et là, je vais plutôt m'appuyer sur le débat d'hier, qui vraiment vient renforcer cette analyse qu'on a faite, cette première piste d'analyse, puisque hier, on a lancé en atelier un débat sur les retraites. Au début, ça prenait K1, K1, et puis finalement, à force de discussion, tous dans le groupe dans lequel j'étais, les centres sociaux se sont exprimés en disant « mais si, finalement, on fait des choses, on organise, enfin, on entend les revendications des gens, et puis on doit surtout les centres sociaux. J'ai l'impression que, alors comme on l'a dit hier, engagir, enfin le pouvoir d'agir, vous n'avez pas attendu les chercheurs, vous n'avez pas attendu engagir. Donc il y avait avant engagir, il y avait pendant engagir, et puis il y a après engagir. Ces histoires de pouvoir d'agir, vous les traitez déjà depuis les années 2000. Mais hier, j'ai eu le sentiment que vous avez encore confirmé cette idée que vous êtes décomplexé à l'idée d'afficher que vous êtes des lieux de débat. Et donc c'est en ce sens qu'il y a une sorte de changement dans les représentations, que les centres sociaux peuvent être des lieux de débat. Et vous semblez vouloir l'afficher sans complexe. Alors, toujours dans ce point d'appui, ce premier point d'appui, ce qu'on a vu hier aussi, c'est que y a finalement deux catégories de débats qui émergent. Les grands débats de société, ce dont parlait Catherine hier, et puis ce gros sac, comme disaient les comédiens hier, là, le gros sac de débats, de questions un peu tabous, où là, les salariés semblent avoir un peu du mal à animer, se sentent moins légitimes à animer ce type de débat, c'est ce qu'on a entendu hier. Puis vous me compléterez ou vous confirmerez ou pas d'ailleurs ce que je suis en train de dire lors du débat là de tout à l'heure. En revanche, vous vous sentez, les salariés, les acteurs, les habitants, vous vous sentez beaucoup plus légitimes sur des questions qui préoccupent du quotidien. Sur des questions qui vous préoccupent au quotidien, et là je parle des habitants, c'est-à-dire le logement, la facture d'eau qui augmente, la fin des contrats aidés, ce qu'on a évoqué hier. Alors là, ça commence à causer hein, dans les centres, les gens expriment leur colère, leurs revendications, etc. Parce que ça parle aux habitants, ça parle aux usagers. Et là aussi, les salariés se sentent plus légitimes pour nourrir, animer le débat. Et donc, j'en viens à mon deuxième point d'appui, qui est l'entrée par les pratiques quotidiennes. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut dire, c'est là encore, bah oui, si, il y a des formes de mobilisation. Les usagers, les salariés, mais là, je pense surtout aux habitants, se mobilisent politiquement, prennent des postures politiques à travers leurs pratiques quotidiennes. Et notamment à travers des dispositifs économiques qui se mettent en place de plus en plus à travers les centres sociaux, accompagnés par les centres sociaux, et puis qui prennent pour certains leur autonomie, comme les épiceries sociales et solidaires qu'on a étudiées dans le cadre du projet Engagir avec Tom Beroy, qui est juste dans mon champ de vision. À travers ces dispositifs économiques, alors je parle d'épiceries sociales et solidaires, mais c'est aussi les jardins partagés, c'est aussi les ressourceries, c'est aussi les projets vacances qui sont développés dans les centres sociaux. Ce sont des dispositifs qu'on peut appeler d'ordre économique. Pourquoi ? Parce que, dans un premier temps, ils permettent l'accès à une consommation pour les habitants les plus défavorisés. J'ai plus qu'une minute. Donc, je vais aller très vite. Mais au-delà de ces prétextes politiques, économiques, il y a un prétexte, enfin il y a des formes d'engagement, puisqu'on remarque bien que dans ces dispositifs, les habitants prennent des postures politiques, c'est-à-dire ou des positionnements politiques, c'est-à-dire quand dans une épicerie sociale et solidaire, un bénévole qui a été bénéficiaire à un moment donné pour beaucoup dit, bah moi cette famille-là, ok, elle a épuisé ses droits d'achat pour ce mois-ci, bah moi je décide de quand même de l'approvisionner lors de la distribution. C'est un positionnement politique. C'est ce que Geneviève Pruvot nomme la politisation du moindre geste. Cette idée défend que dans beaucoup de nos actes quotidiens se nichent des postures, des positionnements politiques. Et troisième point d'appui, c'est s'appuyer sur les enjeux forts, les enjeux locaux du quartier, comme par exemple le plan de rénovation urbain qui, certains centres sociaux l'ont déjà bien intégré, positionner les habitants ou aider les habitants à se positionner lors de ces temps importants dans les centres sociaux, enfin dans le quartier, lors de ces temps importants, accompagner les habitants à se positionner pour qu'ils expriment leur vision du bien-être ensemble, du bien vivre ensemble dans le quartier. Donc c'était le troisième point d'appui. Et donc pour conclure, l'idée c'est de dire, bah effectivement, on a remarqué dans un premier constat comme ça, au premier abord, qu'il y avait de l'évaporation politique, etc. Mais quand on affine un peu l'analyse, quand on va plus loin dans le terrain, quand on s'immerge dans le terrain, il y a bien des formes de mobilisation et donc des points d'appui que vous avez commencé de toute façon déjà à vous emparer. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop démarré.
Merci, on va lancer le débat.